Bonjour le Book Club, bonjour Jenny Scrigol, je m'appelle Ameline, j'ai lu votre livre Brunilda de la Plata et j'avoue que c'est un livre qui m'a complètement sorti de ma zone de confort. J'ai beaucoup aimé dans votre livre les deux personnages principaux qui ont quand même leurs particularités, qui m'ont pas mal intriguée, fait ressentir beaucoup d'émotions.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un premier rendez-vous amoureux aujourd'hui dans votre book club, mais beaucoup de vertiges et pas mal d'obstacles à franchir pour s'y rendre. Norman est invité à dîner par Brunilda à 21h pétante à La Plata, mais pour aller à La Plata, il lui faut traverser un théâtre et sortir par la porte. Or, une pièce est en cours et elle n'est pas prête d'être terminée, elle semble même être sans fin. Farce allégorique sur l'inspiration artistique, l'étourdissement existentiel du créateur et l'angoisse peut-être amoureuse. Toute cette troupe de méchants petits génies qui squattent l'intérieur de nos têtes, l'auteur catalan Genís Rigol est l'invité de votre book club. Ensuite, et comme chaque semaine, nous parlerons des livres à destination des plus jeunes lectrices. Aujourd'hui, c'est Raphaël Bott qui évoque un nouveau roman jeunesse de Clémentine Beauvais, une traque jubilatoire des erreurs et des incohérences dans la fiction. Et enfin, on traquera nous aussi, mais tranquille, la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. Nous voilà ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le book club. Et bonjour Genís Rigol.
Bonjour.
Votre livre Brunilda à la Plata a paru aux éditions Virage Graphique. Bienvenue à vous dans le Book Club. Avant qu'on parle de votre livre en particulier, qui sera au cœur de notre conversation, ici on fait toujours connaissance avec nos invités en faisant connaissance avec leur vie de lecteur. Est-ce que vous vous souvenez avoir appris à lire? Est-ce que c'était un moment agréable et quel genre de traces ça a laissé en vous?
Alors, je ne me souviens pas exactement des moments que j'ai appris à lire, mais j'ai plein de mémoires autour des lectures quand j'étais un enfant. Et surtout, j'ai souvenir des conversations avec mon père autour des livres qu'on a lus. Je pense que, d'une certaine manière, pour moi, de lire, c'était une manière de connecter avec mon père parce qu'il était... Il était toujours dans son bureau de travail, il était professeur, mais il était part d'une une génération de professeurs qui ont grandi en la dictature franquiste. Et alors, le moment dans lequel il a commencé à travailler à l'école publique, c'était le moment de la transition. Et je pense que pour sa génération, ils sont vraiment engagés à l'éducation. Mm. Et je vois toujours mon père et ma mère aussi, mais j'ai la mémoire, peut-être aussi parce que mon père ne m'a fait pas d'attention d'autre manière. Et pour moi, lire, c'était une manière de connecter avec lui. Et je pense que ça restait avec moi, même encore peut-être parce que avec les conversations que maintenant... Comme un adulte, j'aime de converser avec des amis autour des livres. Et parfois, je me demande si ça, c'est une espèce d'héritage de ce moment.
Concrètement, votre papa, il vous proposait de lire des livres en particulier et vous en parliez ensuite ou c'était, comment ça se passait quand vous dites que c'était le cœur de notre relation d'une certaine manière?
Il était... Mon père, il a lu trop, mais beaucoup de livres, mais il a pas seulement lu des livres pour les adultes, il a lu aussi des livres pour les enfants. Par exemple, je me souviens de l'auteur de l'histoire interminable, je ne sais pas si le titre c'est comme ça, Michael Ende, l'auteur allemand, qui c'est... il a aussi un livre de... Je connais le titre en catalan, excusez-moi.
Bah, allez-y, ça va nous faire...
Et c'est Jim Buteau et Luc le Maquiniste. C'est des histoires très fantasieuses. L'histoire interminable, il y a un film très connu qui s'était adapté à les années 90, je pense. Et voilà, pour moi, c'était vraiment une manière de... J'ai toujours l'impression qu'il a lu le livre et qu'il a aimé aussi le livre, qu'il me recommandait. C'était pas seulement de me donner « ça, c'est pour les enfants, vas-y ».
Il y avait aussi un goût, il y avait aussi une forme de recommandation dans sa façon de vous inviter à lire. Et vous, vous aviez du goût pour ça? Ça prenait de la place dans votre vie d'enfant et d'adolescent, la lecture?
Oui, complètement. petit à petit, ça, j'ai appris, j'ai reçu le plaisir de la lecture. Mais par contre, parfois je me demande si sans la figure de mon père, j'aurai la même relation avec le livre. Maintenant, c'est une chose très importante à ma vie. Mmh. Ouais.
Mais comme vous signalez que votre père, il avait vécu la dictature franquiste et que le fait qu'il devienne professeur des écoles dans un moment où le pays lui-même était en transition et que ça a comme intensifié son rapport au livre, est-ce que vous diriez que d'une certaine manière, dans la maison, la politique et l'état du pays faisaient aussi que les livres, la liberté d'expression, la liberté artistique, la liberté d'écrire, vibraient d'une certaine manière en rapport avec la situation politique, ou ce serait un peu trop tirer les choses, Janice Rigol?
Oui, je ne sais pas, c'est difficile à dire, parce que moi j'étais un enfant et je ne peux pas parler pour lui, mais c'est clair que toute sa génération de professeurs, ils ont été vraiment engagés à l'éducation publique en concret. Ma mère, par exemple, elle a créé une école à Barcelone qui était dans des quartiers très, très pauvres, qu'il a commencé à faire la classe à la rue, sans le bâtiment du tout. Et alors, c'était une génération très engagée, comme j'ai dit, mais je pense que c'était pour apporter quelque chose à la nouvelle société aussi. Après, l'intérêt culturel, l'intérêt politique, il était toujours là, et toute la génération de mon père et les amis de mon père, ils ont été actifs à l'antifranquisme, à les années 70, à la fin du franquisme. Mais, ouais.
Est-ce que vous vous souvenez, après ces moments de lecture dans l'enfance et éventuellement conseiller et discuter avec votre père, d'autres moments importants dans votre vie de lecteur? Est-ce qu'il y a des livres qui ont été des tournants qui vous auraient marqué spécifiquement?
Je sais pas, je me souviens des moments de lire. Mais je serait impossible de savoir
les auteurs et les titres.
Qu'est-ce que c'est le livre? Mais je me souviens de lire des livres pour enfants avec des sujets tellement cruels, tellement durs. Je me souviens d'un livre que c'est les personnages étaient osseux, mais c'était un roman, un petit roman pour enfants, et qu'il parle toujours de la femme qu'il a pas rien à manger. C'était comme une histoire très très dure qu'il a pas de manger pour son frère. Et je me souviens d'être un enfant et de lire ça et de penser, mais comment est-ce que c'est possible pour un enfant? C'est un sujet tellement dur. Et après, je me souviens bien d'aller à la bibliothèque publique de ma ville et de prendre des livres. Oui, je me souviens de Roald Dahl, des livres de Jules Verne aussi. Après, les livres de l'école. Qu'on a bien partagé avec tous les compagnes, oui, c'était... Et après, DVD aussi.
Mais justement, puisque nous, on va parler d'une bande dessinée tout à l'heure et du rapport quand même à l'image qui est très très fort dans votre travail, Janice Rigol, est-ce qu'il y a des livres d'images, est-ce qu'il y a des auteurs ou des autrices de bande dessinée qui ont été importantes dans votre parcours de lecture?
Quand j'étais un enfant?
Non, plus tard,
en général,
adulte, oui, adolescent.
Oui, il y a plein. Je ne sais pas pour quoi c'est, mais non, je dirais dans cette BD, peut-être que les influences que je pense que sont plus évidentes ou plus, ouais, qu'il faut que je les explicite parce que sinon sera, je ne sais pas si sera correct. C'est Frank King, c'est un auteur américain qui a fait cette grande page, le journal de le dimanche, que parfois, bon, il y avait une fois, il y avait. Il y avait les planches normales et les planches de les dimanches. Mais je ne sais pas si vous voyez que les États-Unis, première moitié du siècle 20, les dimanches étaient donnés, les journaux étaient vraiment grands. Et les planches de dessin de derrière, c'était une manière de vendre les journaux. Et alors, il avait comme une compétence entre les journaux pour voir qui a
les plus beaux illustrations de fin de journal.
Exactement. Et c'est la période de Winsor McCay, le plus connu. Mais aussi George Harriman, par exemple. Et Frank King est un peu postérieur, mais...
Mais comment vous avez connaissance de ça, vous?
De la librairie. Moi, tout, que je connais, c'est, bon, pas toute, mais toute ma relation avec la BD, ça vient d'une librairie de Barcelone qui s'appelle Fat Bottom, qui est une librairie de, où tous nos amis nous avons l'habitude de nous trouver là. Et sa librairie vraiment a changé mon éducation, mon relation avec la BD. Et j'ai connu plein de choses et plein de gens là. Ouais.
Aujourd'hui, la lecture et les livres, ça occupe quoi comme place dans votre vie, dans votre espace de vie aussi, dans votre espace de travail, Janice Rigol?
Moi, j'aime trop de passer du temps avec le livre. Après, parfois, je me pose des questions de si ce que j'ai besoin, c'est le livre, et n'importe si j'ai besoin, normalement, je l'achète. Chaque fois que je viens à Paris, je passe par une librairie d'occasion et je ne peux pas me contenir et j'achète des livres.
Mais parfois, vous vous demandez si vous avez vraiment besoin de
lire. Oui, parce qu'après, je pense, je ne sais pas combien de temps je resterai dans ces maisons. Après, de déplacer tout, c'est un bordel. Après, parfois, il y a des livres qui sont des livres de, je ne sais pas. Dernière fois, j'ai pris un livre de Piero della Francesca, par exemple, en français, très bien. Très bien, mais c'est un livre comme ça, très
épais,
ouais,
très
lourd. Épais. Je ne sais pas quand je lirai tous ces livres, tu vois. Ça, c'est la vérité. Mais après, de passer, j'ai un petit coin que j'ai créé avec ma copine, parce qu'elle est aussi, elle est l'autre aussi, plus que moi. Et on a créé un petit coin à la maison pour lire avec une lumière, tout est préparé. Mais après...
Ça a l'air cool.
Oui, c'est super cool, c'est super chouette, avec la musique, c'est incroyable. Mais après, c'est vrai qu'après, pour trouver le moment, ça n'arrive pas chaque jour. Après, à la nuit, oui, mais à la nuit, c'est un peu différent. Parce que...
Et vous lisez la nuit?
Oui, aussi, oui. Normalement, oui. Après, j'essaie de commencer à lire un peu plus en français pour améliorer mon français.
Et pourquoi est-ce que vous parlez si bien français?
Merci, je vous remercie. À mon avis, je ne parle pas trop bien français. Mais en fait, j'habite à Angoulême depuis 3 ans. Et ça aide d'habiter en France. Mais aussi, oui, je ne sais pas. En fait, je suis catalane. Catalan, français, c'est des langues avec... beaucoup de connexions.
Est-ce qu'il y a un auteur, une autrice, ou hop, ma gourde qui se... voilà, qui est en train d'inonder le studio, que vous aimeriez lire un jour?
Que j'aimerais lire?
Oui. Vous vous dites, ah oui, oui, un jour je lirai ça.
Oui, j'ai Le Quichotte, Cervantes, je ne l'ai jamais lu, et c'est comme dans mon liste, la numéro... Ouais. C'est clair que c'est ça. Parce que j'écoutais que c'est tellement drôle, tout le monde parle très très bien de le livre. Oui, j'ai plein de curiosité pour voir la captivation.
Ouais. De Don Quichotte de Cervantes. Ouais. On va parler de votre livre à vous, Janice Rigol, juste après cette chanson du musicien qui s'appelle Paul Emploi. C'est un jeu de mots, ça nous a fait rire. La chanson, elle, s'appelle Jaune Orange et c'est une chanson d'amour.
Ça, vous allez entendre le son du dessin. Voilà.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Une femme dit « J'aimerais dîner avec vous ce soir à 21h pétante à La Plata » et tout part en vrille dans le Book Club cet après-midi. Dans votre incroyable première bande dessinée, Génisse rigole, l'intérieur de nos crânes est un théâtre labyrinthique où les émotions s'amusent avec les angoisses, lesquelles se nourrissent volontiers des discours de nos mauvais petits génies. Quoi d'autre que la peur pour faire s'agiter très fort les dramaturges de nos vies en manque d'inspiration. Votre personnage principal, Norman, est donc invité, tranquille, à dîner par Brunilda. Elle est absolument charmante, mais branle-bas de combat. Pour se rendre au rendez-vous, il doit traverser un théâtre. Le théâtre est rempli et il est peut-être rempli de la foule de ses propres empêchements. Vertige amoureux, vertige créateur, l'espace et les cœurs sont bousculés. Mais nous, on aime. Votre bande dessinée s'appelle Brunilda à La Plata et elle a paru aux éditions Virage Graphique. Vous racontez que c'est une bande dessinée qui est née d'un rêve. Est-ce que vous vous souvenez de ce rêve, Génisse rigole?
Maintenant, c'est très difficile à se mélanger, d'être complètement. Parce que j'ai tellement réfléchi autour de ça. C'est comme, je ne sais pas, les rêves, quand on commence à... Même quand on commence à les expliquer, si c'est le même moment, nous sommes réveillés. Et à l'instant, on commence à essayer d'expliquer à quelqu'un dans les moments qu'on lui pose les mots, ça devient une autre chose. Je pense que c'était... Il y a une phrase de Joseph Brodsky, le poète russe, qui disait quelque chose comme « on rêve en langue ». Les rêves à son propre langue, à son propre un peu. Et alors, tout ça c'est pour dire que non, je ne me souviens pas de les rêves, mais par contre, je pense que j'étais toujours, vous disiez fidèle à les émotions que j'ai eues pendant le rêve.
Et c'est quoi ces émotions?
Mais c'était ça, c'était comme un peu comme un sentiment un peu de collectif, un objectif commun à partager entre personnes plein différentes, que tout le monde se traite, fasse soin à l'autre un peu, même s'ils n'ont pas forcément plein de choses en commun. L'émotion aussi, c'était que j'ai très bien passé pendant les rêves.
Vous étiez bien dans ce rêve?
Oui, c'était... J'étais comme... À la fin, c'était un rêve un peu conscient, un peu...
Éveillé?
Oui. Et je me souviens bien, il y avait un moment que j'étais dehors les rêves, comme dans un cinéma, et à l'écran, il y avait les rêves. Et je me souviens de réfléchir autour de les rêves en disant c'est très joli ce film, c'est un film typiquement italien, sans budget, tout dialogue, tout scénario. Je ne sais pas pourquoi. D'après, quand je me réveillais, je pensais ça c'est pas forcément un film italien. Mais dans mon rêve, ça, c'était la logique, c'était complètement logique, ça, que ça représente les canons du cinéma italien. Après, c'est pas comme ça. Mais oui, c'est surtout que j'ai passé très bien pendant les rêves. Je pense que j'essayais à maintenir cette émotion pendant le livre.
Et vous avez pris des notes au réveil? Vous avez fait des dessins pour vous en souvenir?
Non, pas à l'instant, non. En fait, j'étais au Pays Basque, j'étais chez ma tante, la sœur de ma mère, parce qu'on a, on allait là avec ma sœur et ma mère à faire un petit... À apprendre à cuisiner des plats typiques de ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, elle a passé toute sa vie à faire soin des autres à travers de manger. Et alors, ça a passé à la génération de ma tante, et après, ça a passé à ma mère. Et d'une certaine manière, j'aime penser que ça m'arrivait à moi aussi. Et du coup, on était là à connaître, à faire un peu de connaissances des plats typiques, parce qu'il y avait quelques plats que c'était ma grand-mère qui l'inventait. Et alors, on était là, Et moi, je me suis réveillé très content, très heureuse avec les rêves, très excité. J'arrivais à le petit déjeuner. Elle était, ma soeur et ma tante, elles m'ont répondu à mon enthousiasme avec une grosse indifférence, tu vois. Et j'ai dit, j'ai fait un rêve incroyable. Et ils m'ont dit, oui, oui, passe-moi la verre, s'il vous plaît. N'importe, je m'en fiche un peu. Et alors, dans ce moment, je n'ai pas écrit, je n'ai pas rien écrit, mais par contre, c'est ça, l'émotion était vraiment claire. C'était après, quand je rentrais à Barcelone, que j'ai commencé à réfléchir un peu plus autour de qu'est-ce que je peux faire autour de ça. C'était, à mon avis, c'est vrai que j'étais toujours sûr que je voulais faire quelque chose avec ce rêve.
Vous dites qu'à la fin de votre rêve, Génis Rigol, vous êtes vous-même dans le rêve, assis sur un fauteuil en train de regarder un écran de cinéma sur lequel serait projeté votre rêve, et vous vous dites, waouh, super, un vrai film italien. On a retrouvé, Anna Holweg a retrouvé un extrait d'un film qui s'appelle Le scénario du film Passion de Jean-Luc Godard. Lui-même est assis sur un fauteuil, lui-même regarde un grand écran, mais l'écran est blanc, et il parle en quelque sorte du syndrome de la page blanche.
Moi, je pense que on voit d'abord le monde et on écrit ensuite. Tu trouves devant l'invisible, l'énorme surface blanche, la page blanche, la fameuse page blanche de Mallarmé. Et comme un soleil trop fort, la plage. C'est tout blanc. Il n'y a aucune trace. Et c'est drôle, hein. Avoir un blanc, on dit un trou de mémoire. Tu te trouves au fond, tout au fond de ta mémoire. Et alors c'est vrai, tu as un travail d'écrivain à faire, mais tu veux pas écrire, tu veux pas faire ça, tu veux voir, tu veux recevoir. Ouais, tu es en face d'une page blanche, d'une plage blanche, et comme si tu étais en face de la... Mais il n'y a pas la mer. Il n'y a pas la mer, et ben alors tu peux peut-être et tu inventes les vagues, j'invente les vagues. Tu inventes une vague. C'est qu'un murmure, c'est une vague. Tu n'as qu'une idée qui n'est que vague, mais qui est déjà mouvement. Ça, c'est du mouvement.
La voix de Jean-Luc Godard face à un écran blanc, Génis Rigol. Il y a plein de choses dans ce son, dans cette archive, qui peuvent être mises en relation avec votre bande dessinée. Peut-être un des premiers points, c'est l'idée qu'il veut voir d'abord et écrire ensuite, partir d'une vision, et écrire, peut-être même dessiner. Est-ce que c'est comme ça que vous travaillez ?
Je ne sais pas. Ça dépend, parce que la BD, il inclut processus de naturalesse très différents. Il y a une part d'écriture, il y a une part de narration, il y a une part de dessin. Alors je pense que cette situation peut arriver dans chacune de cette part. En général, quand je dessine, j'essaie d'avoir j'ai besoin d'être pas très concret, pour maintenir un peu l'intérêt sur une chose un peu plus générale, un peu plus autour de la composition, un peu plus autour du rythme de la page, de la position de la page. Ça, c'est une chose que parfois je ne sais pas sûr si c'est perçu ou pas, mais en tout cas, je sens que c'est naturel pour moi d'essayer de le faire. Après, à niveau de créer le contenu, c'est difficile à dire, parce que moi, le processus dans ce rêve, c'était que, dans ce BD, c'était que j'ai écrit un premier draft de l'histoire. Après, j'ai travaillé, j'ai passé ça en BD, pour dire très très vite, simplifié trop. Et après quelques temps, j'ai repris tout et j'ai commencé à changer plein de choses. J'ai fait de nouveaux pages, j'ai quitté des pages anciennes, j'ai imprimé tout. Peut-être que j'ai une quinzaine de livres différents chez moi, que j'imprimais comme un fanzine et je les ai lus. C'était pour moi la manière de voir si ça marche bien. et aussi de trouver qu'est-ce que je veux dire aussi. Parce que c'était la chose qui est difficile. Et que pour moi, en fait, c'était très gratifiant de pouvoir travailler sur un processus comme ça. Parce que avant, j'avais fait l'animation. Et en l'animation, c'est très compliqué de travailler comme ça. Parce que tu as toujours une équipe, de personnes qui travaillent avec toi. Tu as besoin d'argent pour financer tout ça. Et une fois que tu prends une décision, il faut y aller. Par contre, ici, la possibilité de travailler seul, ça m'a permis de chercher d'une manière qui, pour moi, c'était très, très, très gratifiant.
Et quand vous dites que ça vous a permis aussi, en cherchant, de savoir ce que vous vouliez dire, ce que vous vouliez raconter, Janice Rigol, alors ce serait quoi ? Parce que moi, j'ai parlé de l'angoisse de la création, du vertige existentiel, de la peur de la rencontre amoureuse. Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter avec ce livre-là ?
C'est difficile à choisir un, parce qu'il
y a plein de
moments. Une chose que j'essayais à mettre dans la BD et que je ne sais pas sûr si c'est toujours clair pour tous les lecteurs. Après, c'est bien si c'est pas clair. Mais c'était comme... Il y a un moment dans les flashbacks, dans les souvenirs des personnages, des dramaturges, que c'est comme un peu la genèse de sa peur. Ça explique un peu d'où vient tout ce moment d'insécurité. Parce qu'avant ça, il a une relation avec la création plus naïve, plus...
instinctive, on va dire.
Oui, que c'est comme... Je pense que c'est nécessaire. Et que c'est nécessaire et qu'en fait, c'est fondatrice, c'est le début de tout. Mais après, quand on grandit, on a aussi parfois ça arrive des déceptions, la chose ne marche pas comme on a pensé. Mais j'essayais d'expliquer comme parfois tous nous expliquent une histoire de tout ça qui nous arrive, tous les événements qui arrivent dans notre vie. Nous avons une idée de nous-mêmes et parfois. Des événements qui se passent autour de nous, on essaye d'aller construire comme une part de cette histoire pour réassurer nous qu'il y a du sens à essayer à écrire des pièces théâtrales, par exemple, dans ce cas. Qu'il est pas mauvais, qu'il y a quelque chose à dire. À la fin, c'est ça. Et alors, tout ça. Tous ces événements qui arrivent dans sa vie, il les lisent activement dans cette direction. Mais après, par contre, souvent, très souvent, il n'y a pas une raison claire pour tous ces événements. C'est à notre nécessité. C'est nous qui nous avons besoin d'un sens. Mais la vie n'importe rien. No? Et alors, c'était une chose que j'essayais activement à mettre dans la BD, même si parfois je me demande si je comprends complètement bien.
Ouais. Bah, l'idée qu'il y aurait une oscillation entre, je ne sais pas, si on prend le terrain de la peur, par exemple, la vie qui est une sorte de chaos absurde auquel on ne comprend rien, ou alors notre peur qui s'origine dans des événements précis, si, c'est très présent dans votre bande dessinée. Je rigole. On va écouter la voix d'une autrice, dessinatrice, elle s'appelle Rebecca D'Autremer, elle était au micro de Romain Debecq de Lièvre en 2019, et elle parle de la parenté entre le travail de dessin, d'écriture et la pièce de théâtre.
Je trouve que faire un livre en tant qu'auteur-illustrateur, encore une fois, j'insiste, c'est vraiment des codes du texte illustré, de la narration par les mots et l'image combinée, c'est une discipline complètement à part. Et je trouve que faire un livre illustré, il y a quand même des mises en scène dans le livre qui est, je trouve, très proche de ce qu'on peut faire dans le théâtre. Enfin, je pense qu'on peut comparer vraiment le travail de l'auteur-illustrateur et du metteur en scène de théâtre. Parce que, et moi, quelques fois où je donne des masterclass, où je m'adresse aux plus jeunes qui me demandent alors comment on fait pour trouver des idées de ça. Bon, d'abord, je sais pas très bien. Et ce qui m'a semblé le plus judicieux, c'est de parler de mise en scène de théâtre et d'imaginer la double page du livre comme la scène vide du théâtre sur laquelle on va faire intervenir des acteurs, un décorateur, un éclairagiste. On peut choisir des couleurs, de la lumière, un type de décor. Ça correspond aussi à un choix de style, de dessin. Et on va aussi combiner les mots, donc le texte et les images, comme le metteur en scène va choisir de faire intervenir son acteur et réciter son texte à tel moment. Et je trouve que finalement, ça m'aide beaucoup de concevoir mes livres, voilà, comme une mini, enfin, c'est pas une mini pièce de théâtre, c'est du théâtre de livres.
On vient d'entendre Rebecca D'Autremer parler du rapport entre l'écriture, le dessin et le théâtre, et je vais lire un extrait de votre texte. Impressionnant, je n'avais jamais encore vu ça, quel talent! Les acteurs que je connais traversent la pièce sans aucune présence et... Excusez-moi, mais toi, ton jeu contient une réelle proposition et l'objet subitement s'anime, c'est que moi, je me suis sentie rattachée à quelque chose de grand, un besoin d'accomplir quelque chose qui soudain s'interrompt. Excusez-moi, savez-vous où se trouve l'atelier de monsieur le dramaturge? Toute action en théâtre doit provenir d'un motif intérieur. C'est juste qu'on m'a demandé de récupérer quelque chose. Qu'importe la teneur de cette action, ce doit être logique, cohérent, vrai. Amen. D'accord, je vais essayer ce chemin. La meilleure chose qui puisse arriver à un acteur est d'incarner si précisément son personnage qu'il ne pense plus à ses actions. Seulement guidé par son intuition et son subconscient. Mais comment insuffler et nourrir l'inconscient dans le cas d'un objet inanimé, comme une table ou une lampe? J'y vais, d'accord? Parfois, je me demande en quel matériau je suis fabriquée. Comment était ma vie en tant que chêne? Peut-être ai-je grandi près d'un cours d'eau? Monsieur le dramaturge, je viens chercher la fin de la pièce. Monsieur le dramaturge, je m'excuse, c'est Norman. Monsieur le dramaturge, là j'ai vraiment besoin de récupérer ces textes. Voilà, bon, c'est une impro
c'était lourd.
de lecture de votre bande dessinée Brunilda à la Plata aux éditions Virage Graphique. Janice rigole, et juste avant, on entendait la voix de Rebecca D'Autremer. Comment est-ce que vous en êtes arrivée à ce que tout cet espace mental de votre personnage principal et que toute l'action se passe dans un théâtre que tout ce qu'il doit faire pour se rendre à ce rendez-vous amoureux, à ce rendez-vous qu'on lui a donné à 21h pour dîner avec Brunilda, tout se passe dans un théâtre?
Je pense qu'il y a une connexion avec ça parce que je suis d'une petite ville, ou une ville à 30 km de Barcelone, où chaque an, pendant cette date, en fait, se représente la passion de Christ. Et c'est un théâtre amateur de la gent de la ville. Alors, le Boulanger, tout le trouve, la Fête de Judas, le dimanche. Et moi, j'ai passé des heures là, parce qu'il y avait un petit part que se jouait pour les enfants, et j'ai mon petit texte là. Et de jouer autour, je pense, de ces décors, avec tout le que sont les arbres. En décor, tout le qui est comme la nature, tout le qui est faux, pour moi, comme un enfant, c'était fascinant de jouer là. Et je pense que ça restait dans ma tête. Après, je voulais connecter ça avec une autre question, mais...
Parce qu'il y a quand même quelque chose qui apparaît dans votre bande dessinée où oui. Est-ce qu'on est... Allez-y, vous avez retrouvé votre idée.
Oui, non, c'est seulement que quand j'avais étudié, je voulais faire un peu la blague aussi autour de la dramaturgie, parce que c'était comme, ok, il y a ce personnage, ça passe dans un théâtre, alors j'avais lu un peu de théâtre, parce que j'avais les aspirations d'écrire de scénario pour court-métrage, des choses comme ça, et alors j'avais lu un peu de théâtre, un peu de dramaturgie aussi, de théorie. Alors ça arrive un moment que la théorie de dramaturgie est pleinement... est simple, parfois c'est comme il faut un obstacle. Et je voulais rigoler un peu autour de cette chose, no? Alors l'obstacle c'est tellement clair, c'est tellement un peu créé un peu avec la flemme, un peu se forcer la tête de trouver une chose sophistiée. Et je pense que ça a été un peu comme cette idée de, okay, d'accord, Norman a un objectif, que c'est d'arriver à son rendez-vous avec Brunilda, Et alors, qu'est-ce qu'il c'est l'obstacle? L'obstacle, c'est croiser la scène. Et ça m'a connecté avec un dramaturge qui l'a pour définir son texte, parce qu'il a très, très grande expectation de lui-même.
Mais après, il y a aussi l'idée d'une mise en abîme, c'est-à-dire que ben, dans la vie, on joue aussi nos rôles sociaux et que la vie, c'est une forme de grand théâtre et que se rendre à ce rendez-vous-là, ben, ça le met face à sa grande angoisse de comment est-ce qu'il va réussir, parce qu'il est traversé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes et il y a plein de petites personnes qui parlent dans sa tête, lui, mais aussi dans celle du dramaturge. D'ailleurs, parfois, on se demande si c'est pas la même personne. Enfin, il y a quand même aussi cette espèce de grande métaphore que la vie, ce serait un théâtre et qu'on serait tous en galère dans ce théâtre-là à jouer des partitions et parfois avec plus ou moins d'inspiration.
Oui, pour moi, c'est connecté avec l'identité surtout, je pense, l'identité de chacun. Dans ce sens, oui, qu'il y a cette espèce de représentation. Parfois, qu'est-ce qui arrive avant, si un peu notre identité est créée pour l'idée que nous avons de nous-mêmes, ou nous avons cette idée parce qu'on a certains comportements précis dans la société. Dans ce sens, oui, il y a tout ce concept-là, oui.
On va écouter la voix d'Ameline. Elle a lu votre livre, c'est une auditrice du Book Club, et elle s'intéressait à ses vieux souvenirs de vieilles bandes dessinées.
Bonjour le Book Club, bonjour Jenny Skigol, je m'appelle Ameline, j'ai lu votre livre Brunilda de la Plata, et j'avoue que c'est un livre qui m'a complètement sorti de ma zone de confort. Notamment du fait des dessins, moi ça m'a rappelé des super souvenirs. Les dessins, ils me font un petit peu penser au vieux Mickey que je regardais sur les cassettes de mes parents quand j'étais enfant, et ça m'a fait chaud au cœur de retrouver des dessins un peu similaires.
Peut-être, merci beaucoup Ameline d'avoir partagé ce sentiment de lecture, peut-être pour vous faire parler, Jenny Strigol, de cette esthétique toute particulière que vous avez choisie. En effet, vous parliez tout à l'heure des grandes pages des journaux américains. Il se trouve que le format de votre livre, il est assez grand, qu'il y a là une gamme des couleurs comme un peu passée, un peu jaunie. Ameline, ça lui fait penser à des vieux Mickey, des vieux journaux qu'elle avait. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette esthétique-là?
À niveau des couleurs, de couleurs et de la valeur de la page, j'étais en train de chercher une manière d'appliquer les couleurs parce que je l'avais en noir et blanc et l'éditeur espagnol il m'a posé la question comme ça un peu parce qu'il je pense qu'il voulait il voulait que je travaille sur les couleurs. Et alors j'ai essayé plein de choses et un jour rien réussi à rien. Et un jour j'étais chez cet ami que je vous avais dit avant qu'il a une librairie à Barcelone. Et j'étais chez lui, il avait ce livre de bande dessinée, d'histoire de la bande dessinée ancienne. Et je veux. Parce que moi j'aime trop quand il y a des corrections, quand il y a des corrections en blanche dans les dessins. Et parfois quand le papier c'est vieux. Il y a soudain, il y a cette nouveau valeur plus lumineuse. Et j'ai joué un peu avec ça. J'ai trouvé un papier que c'est un papier pour. C'est pas pour l'aquarelle, c'est un papier pour les pastels. Et j'ai touché un peu les couleurs après en Photoshop pour le faire plus lumineux.
On va écouter la voix de Saul Steinberg, un dessinateur qui parle notamment de l'architecture et du dessin des symboles.
Voilà, je ne suis pas parleur, alors je veux faire un dessin. Voilà, je commence. Approchez-vous comme ça, vous allez entendre le son du dessin. Voilà. Et le dessin représente un arbre, une pyramide et un cercle fait à la main comme symbole de la bonne architecture. La pyramide veut dire la raison. Le cercle fait à la main, c'est l'esprit, le talent, voilà, l'habileté, la chose poétique de l'architecture. Et l'arbre, naturellement, c'est la chose la plus difficile. C'est là On n'a jamais fait un bon arbre, mais comme symbole, c'est l'architecture. Merci.
C'est la voix du dessinateur Saul Steinberg. Alors, avant qu'on parle de la pyramide, puisque c'est un dessin que vous produisez, Genis Rigol, au sein de votre propre bande dessinée, est-ce que vous pouvez nous parler du travail autour de l'architecture ? Il y a énormément d'architecture dans ce livre-là. Évidemment, toute l'architecture du théâtre, une architecture labyrinthique qui devient aussi parfois une architecture mentale. Comment vous avez travaillé cet aspect-là de votre bande dessinée ?
À copier, non. Non, j'ai vu la scénographie en théâtre, c'est incroyable. Si tu commences à chercher, moi je ne connais rien, mais si tu commences à faire une petite recherche, je trouve des choses vraiment, vraiment très, très belles. Après, il y a je ne me souviens pas bien, les cas... je pense que c'est une chose de dadaïsme, une espèce de ballet dadaïste qu'il y avait, qui sont tous avec des plans de ropages qui sont très, que j'ai utilisé vraiment pour m'inspirer pour quelques parts de la BD. Et après, il y a plein de modernisme de Barcelone, parce qu'il y a plein de la Barcelone préolympique et de la Barcelone ancienne, et plein de modernisme de Barcelone. Et après, il y a un peu, parfois, il y a un peu de jouer avec les perspectives et de me trouver un peu dans un peu un univers plus commercial, mais sans chercher, sans de me trouver là seul un peu. Ouais.
Et qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de construire vraiment presque des mondes, enfin, c'est-à-dire que ce théâtre-là, ça devient un monde en particulier. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans votre dessin, presque de bâtisseur ?
Je ne sais pas, mais c'est clair que c'est une de les choses captivantes du théâtre, c'est que c'est, comme vous avez dit avant un peu, que c'est comme la représentation de la vie, d'une certaine manière. Et alors, comme cette condition de la condition de ce théâtre, c'est un théâtre rêvé, qui habite dans un rêve, on peut nous permettre l'engrandir, le faire petit, de changer la proportion, de changer la quantité de public qu'il y a. Et c'est surtout de jouer autour de ça, de me permettre bien passer avec les dessins, de disfruter les processus de dessiner, de composer, de faire la couleur. Oui, pour moi, c'est joyeux de dessiner. Et alors, ça arrive aussi de manière naturelle.
On entendait la voix du dessinateur Saul Steinberg parler d'une pyramide. Vous produisez la pyramide de virtuosisme avec le dramaturge et sa conscience. Et tout en haut de cette pyramide, il y a, avec un grand drapeau, le manque de talent absolu. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette pyramide, Genis Rigol ?
Oui, je ne sais pas, j'ai copié à Steinberg. non, dans le livre The Labyrinth, de Steinberg, c'est un livre d'illustration, il y avait un... Mais ce n'était pas comme une pyramide, je pense que c'était, la forme c'était un peu différent, mais après j'ai pensé à reproduire une chose similaire, mais autour de le process, c'était plus inspiré autour de le processus de l'apprentissage de dessin pour moi. Et alors ça commence un peu à la base, c'est plus un peu la naissance de ça, ça commence avec la curiosité, l'étude, et après...
La confiance, ouais, l'incertitude, exactement. Et plus ça monte, et moins c'est facile quand même,
ouais.
Parce qu'on monte à l'étage supérieur, salaire, philanthropie, persistance, et puis à l'étage d'après, rationalité, intuition, ostentation, et puis ensuite technique, ego, attitude, satisfaction, attente, échec, aïe, apprentissage, auto-illusion, et tout en haut, le manque de talent absolu. Peut-être qu'il révèle aussi l'un des thèmes très forts de ce livre-là, qui est le rapport à la création, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans le dessin et peut-être dans l'amour. On va essayer de lire un autre passage de votre bande dessinée. Et merde, C'est soit trop artificiel, soit trop prévisible. Je n'arrive pas à écrire cette fin. Comment Zelmira fait-elle? Tout semble si facile, si naturel pour elle. Elle sait laisser vivre la pièce d'elle-même. Parfois, je me demande pourquoi j'aime autant ces pièces. Je ne comprends toujours pas la manière qu'elle a de me surprendre. Ce qui finalement rend son travail authentique. Ah merde! Zelmira est aux premières loges. Elle pourra témoigner de ma médiocrité. Je ne comprends pas. Je fais tout ce qu'il est possible de faire. Je m'exerce tous les matins, avant que le soleil ne se lève. J'observe la réalité à la recherche de ses subtilités. J'étudie les classiques. J'élabore des cartographies géantes. Malgré tout ça, je ne peux rien présenter de solide face à Zelmira. Qu'importe les efforts fournis, la seule chose que je peux espérer, c'est ne pas me ridiculiser. Mais mon vieux, ne sois pas si dur avec toi-même, tu m'entends? Simplement, tu ne peux pas apprendre à devenir bon? Oh, t'as grossi, parfois je me demande pourquoi on continue sur cette voie. Tu veux me faire croire qu'écrire te passionne encore? Ou peut-être es-tu incapable d'admettre que le travail d'écriture n'est pas fait pour toi? Puisque maintenant c'est une partie intégrante de qui tu es, la renier te conduirait à une crise identitaire. Combien d'autres échecs vas-tu pouvoir supporter? À force de te comparer aux autres dramaturges, tu deviens le fruit de ton propre masochisme. Quand je pense aux auteurs que j'admire comme Zelmira, je sais qu'ils ne me considéreront jamais comme l'un des leurs. C'est comme s'ils voyaient le vrai moi. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi il est si difficile pour toi de terminer tes pièces? Le simple fait d'y penser me terrifie, ça m'a toujours demandé de surmonter l'insurmontable. Il est impossible que les autres, ah, ce soit aussi difficile que pour moi. Ça doit leur être plus facilement accessible. Bon voilà, c'est franchement pas si facile que ça, Génis Rigole, de lire Brunilda à la Plata, votre livre Virage graphique. Est-ce que vous voulez bien dire quelque chose, déjà d'une part pour me permettre de reprendre mon souffle, sur tout ce que votre livre travaille de l'angoisse face à la création, face à l'inspiration, face à l'échec, et peut-être aussi face aux femmes et la rencontre amoureuse, parce que tout part en cacahuète quand une seule femme dit « rendez-vous ce soir à 21h pétante pour dîner ».
Oui, je ne sais pas si c'est la meilleure raison pour commencer une aventure. D'avoir un rendez-vous avec quelqu'un comme ça. Je pense que j'ai trouvé cette connexion parce que c'est un sujet, une idée, c'est des concepts que j'ai plein de choses à dire, que je me sens connecté. Alors, c'était facile pour moi. À travers d'exagérer tout ça, ça m'a permis de travailler avec la légèreté. Sinon, si je pose pas ça comme une évidence, alors toutes ces voies commencent à être importantes à mon intérieur et alors je me bloque. Je deviens comme dans le drama, comme les dramaturges. Mais par contre, de poser ça, de faire des blagues autour de ça, d'exagérer, ça me permet de travailler avec une légèreté que d'autre manière sera pas possible. Et aussi de recevoir de l'aide de ma copine, elle m'a aidé trop à écrire l'histoire, à trouver ça qui fonctionne, ça qui ne fonctionne pas. La traduction, la fait-elle, je pense que le texte en français, peut-être que c'est encore mieux que l'espagnol, grâce à son travail.
Il faut dire son nom alors.
A Felandra Suarez. Ouais.
C'est important.
Ouais.
Le book club continue.
France Culture, le book club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, chaque semaine, c'est le moment de s'intéresser à la littérature jeunesse. Et c'est vous, cette semaine, Raphaël Bott, qui allez nous en parler. Bonjour Raphaël.
Bonjour Marie.
Raphaël, vous êtes journaliste et vous suivez ce domaine littéraire depuis plusieurs années. La romancière Clémentine Beauvais, bien connue de ceux et celles qui s'intéressent à la littérature jeunesse, vient justement de sortir le premier tome d'une nouvelle série. C'est une série très singulière dans laquelle on découvre d'abord un métier littéraire, j'ai l'impression.
Je ne vais pas perdre de temps, Marie. Voici l'annonce. Urgent, recherche lecteur spécialiste pour élucidation d'un mystère dans un grand classique de la littérature, point, entière confidentialité SVP, point, danger, point, tel 75, 89, 43, 87. Bon, moi j'ai le sentiment que vous avez les qualifications requises. Maintenant,
je ne sais pas aujourd'hui.
Ah, est-ce que vous répondriez à cette petite annonce si sur un malentendu, vous tombiez dessus dans un journal ?
Je ne sais pas trop, je ne sais pas si j'appellerais, mais j'avoue que je serais quand même très très intriguée.
Réfléchissez bien, car seul un détective privé peut s'y atteler. Dans l'affaire Petit Prince, donc c'est le livre de Clémentine Beauvais qui vient de sortir et dans lequel on découvre cette petite annonce au bout de quelques pages, le détective privé n'hésite pas, lui. Il sent que quelqu'un a besoin de lui et accompagné d'une assistante et de deux jeunes adolescents, il se lance à l'assaut d'un grand classique. Et là, c'est Le Petit Prince.
Alors, je récapitule. Ce nouveau roman de Clémentine Beauvais est un livre sur un autre livre, Raphaël ?
C'est un peu ça, en quelque sorte. Le point de départ de tout cela est simple. Il y a des erreurs judiciaires dans la réalité. Alors, pourquoi n'y en aurait-il pas dans la fiction ? Cette idée, Clémentine Beauvais ne l'a pas eue seule. Cette romancière, c'est une passionnée des ouvrages de Pierre Bayard.
Pierre Bayard, qu'on a évidemment déjà reçu au Book Club et maintes fois sur France Culture.
Et pour mémoire, c'est un romancier, un essayiste, un professeur émérite de littérature française, un psychanalyste. Et il a, entre autres, publié des textes dans lesquels il décortique des intrigues. C'est le cas de l'affaire du chien des Baskerville, au sujet du livre d'Arthur Conan Doyle, ou encore La vérité sur Ils étaient dix, à partir d'Agatha Christie. Ce sont des textes assez érudits, drôles, et ce monsieur est un maître dans ce qu'il appelle la critique policière. C'est une forme de critique littéraire qui consiste à mener une enquête dans une œuvre pour y déceler des invraisemblances, des secrets ou des dissimulations à la manière d'un détective. Donc notre Clémentine Beauvais, elle lui a demandé à Pierre Bayard s'ils pouvaient se lancer ensemble dans des enquêtes au sein de classiques de littérature jeunesse.
Et c'est ainsi que le vrai Pierre Bayard, celui qui est venu en chair et en os dans notre studio, se retrouve un vrai faux personnage d'un roman de jeunesse, c'est bien ça ?
C'est exactement ça, puisque très vite, ils ont poussé leur logique jusqu'au bout et ils ont choisi d'en faire une fiction. On lit donc une véritable aventure pour tenter d'élucider des mystères bien épais autour du Petit Prince, écrit par Antoine de Saint-Exupéry en 1942. Et ils se sont attelés à rechercher ce qui cloche dans ce livre.
Alors, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur cette enquête, sans trop révéler, mais quand même ?
Bah, disons qu'elle s'adresse aux lecteurs qui refusent de croire le livre sur parole. Elle pointe des incohérences. Par exemple, ce boa qui a avalé un éléphant, bon bah c'est bizarre.
C'est vrai.
Cet avion qui ne redécolle pas, c'est louche. Le narrateur, c'est qui au juste ? Donc on retrouve aussi le style de Clémentine Beauvais, son goût pour les bons mots. Le méchant de l'affaire, par ici, n'est autre qu'un dénommé Lucien Vol de Nuit. Le texte cavale, parsemé de scènes comiques très visuelles, de dialogues efficaces, de clins d'œil malins. C'est ambitieux, singulier et c'est aussi, pour moi, une réponse intelligente au discours assez injonctif qui ne fait qu'amplifier autour de la lecture et des jeunes adolescents.
C'est-à-dire ? C'est vrai qu'on le dit beaucoup en ce moment, moi la première.
Et ben moi, je trouve que cette série, c'est plus qu'une bonne idée étonnante, c'est presque un manifeste. Après cette enquête autour du Petit Prince, le prochain, qui sortira à la rentrée de septembre, il sera consacré à un mystère dans Peter Pan. Et l'air de rien, ces ouvrages livrent des clés pour gagner en liberté et en plaisir de lecture. En malaxant une intrigue, on garde l'œil ouvert, on devient un lecteur qui ne se laisse pas complètement dominer par l'auteur, on aiguise son libre arbitre pour se balader dans les histoires et faire connaissance autrement avec les œuvres. Ça peut paraître un peu théorique quand je vous le dis comme ça, mais je vous assure, c'est un chemin vers le plaisir de lecture.
Et je suis sûre que ça marche aussi pour les grands. On va essayer de devenir détective alors. Je vais peut-être répondre à la petite annonce du début. La série s'intitule Pierre Bayard, détective privé. L'affaire Petit Prince est un premier tome. Vous le disiez, la suite arrive. C'est signé Clémentine Beauvais avec la complicité de Pierre Bayard. Et on peut retrouver toutes ces références bibliographiques sur le site du Book Club franceculture.fr. Merci beaucoup Raphaël Bott.
Plaisir.
À bientôt, hein, vous revenez dans le Book Club. Bon, je crois qu'on aura compris qu'il y a quelque chose de très joueur dans votre bande dessinée, Janice Rigol, et tous les book clubs de France Culture se terminent toujours de la même manière. Nous jouons, nous aussi, à chercher de la musique dans les livres. On propose à nos auditrices et auditeurs de jouer avec nous. Pour ce faire, vous pouvez prendre une photographie du livre que vous êtes en train de lire et où, d'un seul coup, la musique se trouve évoquée d'une manière ou d'une autre. Vous l'envoyez ou bien à l'adresse mail lebookclub@radiofrance.com ou bien via Instagram et le compte Instagram du Book Club. Aujourd'hui, qui joue avec nous? Une Anouk. Ça se termine par CK. Elle a choisi un livre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on fout ici ?» publié en 2023 aux éditions Gallimard et c'est signé Shane Kassim. Calmée par le froid revigorant, j'ai souri dans la rue en pensant que, pour la première fois de ma vie, je rentrais d'une soirée sans avoir dansé une seconde. Je me suis assise sur le muret d'une maison, à une cinquantaine de mètres de la fête. Piégée par moi-même, d'une certaine manière, je furetais dans mon cerveau à la recherche d'une parade pour la nuit. Le repli chez Georges Henry me paraissait une bonne stratégie pour éviter Aline, ainsi qu'une avalanche de questions aussi impérieuses qu'inévitables. Il était beaucoup trop tôt pour rentrer d'une fête. Les premiers accords d'une chanson de Massive Attack que j'adorais ont alors retenti. Alix m'avait offert leur CD pour mon anniversaire. J'avais tout aimé, absolument tout. Mais en particulier l'album Blue Lines. Je me suis tournée vers Gabriel qui a articulé un silence en me montrant du doigt. C'est pour toi. L'été dernier, je m'étais assise à côté de lui sur les marches d'un escalier dans une autre fête alors qu'il faisait une pause. C'est l'histoire d'une fille qui découvre une chanson de 1991 à propos d'une rupture. Il en tombe éperdument amoureuse et le jour même, elle se fait larguer par un mec nommé Félix. Tu le crois ? Je lui avais raconté ça en riant. Il s'était souvenu de notre conversation apparemment. J'étais décidée à n'être plus qu'un corps qui danse. Déjà, les basses se faufilaient dans ma cage thoracique, la voix de la chanteuse m'électrisait le cerveau, des centaines de petites fourmis argentées avançaient sur mes épaules. Je n'ai pas pu faire un pas. There's a hole in my soul, like a cavity. Seems like the world is held together just by gravity. The wheel keeps turning, the sky's rearranging. Look, my son, the weather is changing. I'd like to feel that you could be free. I look up at the blue skies beneath a new tree. Sometime again, you turn green and the sea turns red. My son, I said, the power of accents over my head. Merci beaucoup, Janice Rigol, d'avoir été avec nous pour parler de Brunilda à La Plata, paru aux éditions Virage Graphique.
Merci à vous.
Au son, aujourd'hui, c'était Jordan Fuentes, à la réalisation Anna Holweg. Vous pouvez réécouter ce book club et tous les autres sur franceculture.fr. Vous pouvez poursuivre la conversation via le compte Instagram du book club. Un grand merci à toute l'équipe.
Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots « journal intime », ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor, le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
Mercredi 29 juillet, première rencontre avec les Khmers Rouges.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les mères.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre d'Adila Benedjaizou et Clémence Gross. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.